Tout d'abord, c'est avec grand plaisir que je me retrouve parmi vous ce matin. Et il m'a été demandé, et je me dois de le faire, de vous saluer particulièrement aussi de la part de l'Église de Genève, qui, ne l'oublions pas, ne vous oublie pas. D'accord ? Et je pense que nous pouvons demeurer les uns et les autres dans la prière, les uns pour les autres. Mais avant d'ouvrir nos Bibles ce matin, j'aimerais prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, c'est avec une infinie reconnaissance que nous pouvons en toute liberté ouvrir ta parole ce matin. Accorde à nos esprits, à nos cœurs, à nos pensées d'être essentiellement tournés vers toi. Seigneur, dans tout ce qui va être dit, que chacun puisse retenir ce qui est bon. Et Seigneur, c'est toi qui veux aussi donner à chacun le pain de ce jour. Nous voulons nous en remettre à toi encore pour ce moment et merci pour ta présence qui ne cesse de nous accompagner. Garde-nous les uns et les autres dans ta paix. Amen. Il est parfois des temps dans la vie où l'on a l'impression que tout s'arrête. Et ce qu'ont vécu tout récemment ces attentats ont dû subir cet arrêt du temps. Parce que parfois c'est le deuil qui nous frappe, la maladie, l'accident. Et nous voilà en quelque sorte à la merci de l'inconnu. Comment vivre cela? Comment réagir face à la souffrance tant physique que psychologique? Comment en définitive intégrer en nous ce projet de paix et de bonheur que Dieu dit qu'il a en réserve pour chacun de nous et pour son peuple en général? Il est alors des réflexes, à mon sens, qu'il est bon d'avoir et qui consistent bien sûr à s'adresser à celui qui, justement, peut, à ce moment-là, nous paraître bien loin de nous. D'où l'importance, quand tout va bien, entre guillemets, de ne pas cesser de se nourrir de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est un texte souvent cité dans les Écritures qui concerne le peuple d'Israël et dont certaines promesses, qui dans leur sens premier s'adressent au peuple bien sûr, peuvent par la foi être appropriées par des chrétiens ou à un groupe de chrétiens. Car c'est là également, je le crois, une des richesses de la parole de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais lire avec vous ce matin dans le livre des Jérémie. Jérémie, et nous lirons les versets 4 à 14. Jérémie, chapitre 29, versets 4 à 14. Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, à tous les exilés, ceux que j'ai exilés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en le fruit. Mariez-vous et engendrez des fils et des filles. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Multipliez-vous là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez la paix de la ville où je vous ai exilé et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car votre paix dépendra de la sienne. Car ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui sont parmi vous, ni par vos devins. Ne prêtez pas attention aux rêves que vous faites. car c'est mensongèrement qu'ils vous parlent en prophète en mon nom. Je ne les ai pas envoyés. Déclaration du Seigneur. Mais ainsi parle le Seigneur. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai pour vous et je réaliserai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant en ce lieu. Je connais, moi, les plans que je prépare à votre intention. Déclaration du Seigneur. Non pas des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir et un espoir. Alors, vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous me prierez et je vous entendrai. Vous me rechercherez et vous me trouverez, car je me laisserai trouver par vous. Déclaration du Seigneur. Et je rétablirai ainsi votre situation. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai bannis. Déclaration du Seigneur. Et je vous ramènerai en ce lieu d'où je vous ai exilé. J'allais dire, l'introduction à ce passage, François, il en a fait une grande partie tout à l'heure, merci, c'est un point de vue historique, pour situer ce passage de Jérémie, 586, date fatidique, l'exil, fin du temple. Et Jérémie se trouve, lui, à Jérusalem. D'ailleurs, il ne sera pas déporté à Babylone, comme la plupart des autres, sous Nebuchadnezzar. Non, Jérémie ira... Pense-t-on normalement être tué et finir sa vie en Égypte avec un reste d'Israël? Mais à ce moment-là, lorsque Jérémie parle au peuple, il sait très bien ce qu'il se passe. Et il sait que certains de ses concitoyens sont avec lui ici à Jérusalem. Et tout le monde croit que bon, ça ne va pas durer longtemps, ils vont vite revenir. Or c'est faux. Que dit Jérémie au peuple en déportation? Versets 4 à 7, nous l'avons lu. Mariez-vous, bâtissez des maisons, cultivez des jardins, mangez-en les fruits. On ne bâtit pas une maison pour 15 jours. Mariez encore les enfants de vos enfants. Bref, installez-vous. Et pourtant, il dit cela à ce peuple qui est en déportation. Et il leur dit aussi quelque chose de très intéressant, que je ne développerai pas beaucoup, mais que je voudrais juste souligner. Il leur dit au verset 7, « Recherchez la paix de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès, pour elle, pardon, auprès du Seigneur, car votre paix dépendra de la sienne. » Simplement pour souligner que c'est là aussi un peu une leçon, peut-être, pour les immigrés actuels ou pour les immigrés que nous sommes nous-mêmes aussi. Pensons-nous assez souvent à prier pour la paix de la ville? Pensons-nous que tous les immigrés qui viennent ont cette attitude de prier pour la paix de la ville qu'ils reçoivent? C'est là juste une interrogation. Mais en plus de cela, le prophète leur dit bien qu'il ne leur promet pas la paix et le bonheur de revenir très vite à Jérusalem. Par contre, la paix, leur dit-il, elle peut se vivre même en déportation. Et les promesses qui sont faites par Jérémie et que nous allons voir sont des promesses qui, en définitive, orientent une manière de croire et une manière de vivre. Ce sont des promesses qui, ancrées dans la conviction de la foi, montre que nos choix de vivre, nos choix d'investir, peuvent être porteurs d'avenir en étant féconds. Et ce sont des choix qui valent la peine d'être vécus par la grâce de Dieu. Alors, quels sont les projets de bonheur de Dieu pour nous? Voilà un peu la question essentielle de cette prophétie. Je voudrais en souligner trois aspects. Tout d'abord, nous verrons l'exaucement, la rencontre, le pardon avant de conclure par le salut. Projet de bonheur de Dieu pour nous. C'est tout d'abord, nous est-il dit verset 12, de nous exaucer. Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous m'invoquerez. Que pouvons-nous dire lorsque nous nous adressons à Dieu? Que pouvons-nous lui dire? C'est toi, Seigneur, qui connais toutes choses. Tes plans m'échappent. La manière dont tu conduis ma vie me confond. Elle me devance. Et toutes ces choses me dépassent. Ce dont je suis certain, c'est que toi, tu sais. Il y a bien des aspects et une dimension que je ne comprends pas. Mais je veux te faire confiance, parce que tu es celui qui dirige tout à merveille. On raconte l'histoire d'un barbier qui avait dans son entourage un homme qui ne prenait pas soin de lui. Et l'on fit remarquer à ce barbier la chose suivante en lui disant, tu n'as certainement pas un bon barbier, parce que autrement tu ne laisserais pas quelqu'un comme cela dans ton entourage sans lui couper les cheveux. « Pourquoi me reproches-tu l'état de cet homme ?» demanda-t-il. « Ce n'est pas de ma faute. Il ne m'a jamais rien demandé. S'il venait me voir, je saurais faire tout ce qu'il faut pour qu'il soit soigné et présentable. » Oh, cette illustration nous montre bien que ce n'est pas la faute de Dieu si l'humanité est dans la misère spirituelle. Dieu nous a créés avec un libre arbitre, en nous invitant à l'invoquer, à le prier et à s'approcher de lui. Dieu pourrait très bien nous dire, comme le barbier, s'il venait me voir, je saurais faire tout ce qu'il faut pour qu'il soit soigné et présentable. En effet, il appartient aux hommes de s'approcher de Dieu pour qu'il les purifie. D'où nous vient le secours, dit le psalmiste. Verset 2 du psaume 121. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et souvent, les hommes en détresse ont des dispositions, n'est-ce pas, pour se tourner vers Dieu ou vers d'autres formes de Dieu très rapidement. Et quand tout va mal, certains disent volontiers, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, n'est-ce pas? Et dans la parole de Dieu, il y a d'ailleurs un exemple assez frappant. Souvenez-vous, c'est celui des mariniers dans le livre de Jonas. Oh ben là, tous les dieux de l'époque, ils y passent. Puis vient le tour du dieu de Jonas. Et l'on connaît la fin de l'histoire. Ouais. Quelles sont nos motivations lorsque nous nous approchons de Dieu? Est-ce uniquement pour des exaucements particuliers et propres à nous-mêmes que nous voulons? Ou pour faire réellement la volonté de Dieu? Est-ce que ce sont nos craintes qui, en définitive, nous submergent, qui nous poussent, n'est-ce pas, à nous approcher de Dieu, à l'invoquer? Est-ce que ce sont nos propres projets à nous? Or, l'avertissement que Dieu donne aux contemporains de Jérémie est là pour nous rappeler l'essentiel. Verset 11 de notre texte du jour. Je connais, moi, les desseins que je forme sur vous. Nous a été parlé de connaissance tout à l'heure. C'est l'Éternel qui connaît. Et il ne peut que nous transmettre une part de sa connaissance. Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet. Alors nous devons faire, je me semble-t-il, attention aux faux chemins si facilement empruntés, aux faux projets que nous pourrions avoir, aux faux prophètes que nous aimons parfois à nous donner, aux fausses visions, aux faux discours, aux faux concepts. Et lorsque Jérémie invite le peuple d'Israël à invoquer et à venir adresser leur prière à Dieu, ce n'est pas pour entendre ce qu'ils ont envie d'entendre, mais pour croire que Dieu prendra soin d'eux en toutes circonstances. Parce qu'il est Dieu. L'apôtre Jacques, au chapitre 4, verset 3, nous dit « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Accepter le projet de Dieu, c'est une démarche personnelle que la Bible nomme la foi. Combien de personnes se tournent vers Dieu uniquement pour qu'il agisse selon leurs propres désirs et projets ? On ne rentre pas ainsi dans le projet de Dieu. Croire que Dieu a donné son Fils à la croix pour faire comme une sorte de service après-vente sur terre est ni plus ni moins qu'un faux évangile. L'apôtre Jean le dit dans son évangile, verset 3 du chapitre 17, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Dieu attend de chacun de nous que nous lui fassions confiance en toutes circonstances, simplement parce qu'il en est digne, qu'il est digne de recevoir de notre part cette confiance. Depuis la Genèse, Dieu prouve son amour envers nous en le menant à son comble au travers de son Fils. Et si nous sommes libres de choisir, Dieu nous invite à lui donner du crédit. C'est là une démarche personnelle, un culte raisonnable, car il en est digne. Jean, toujours dans l'Apocalypse, nous dit, verset 11 du chapitre 4, « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as tout créé, c'est par ta volonté que tout était et que tout a été créé. » Vous vous souvenez dans l'évangile de Matthieu de l'histoire des 10 vierges, l'exhortation principale de celle-ci, quand Christ reviendra, chacun répondra pour soi et personne ne sera au bénéfice d'un autre. Ma prière est qu'aucun de nous, ici présents, ne s'entende dire le verset 12 du chapitre 25 de Matthieu, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Oui, le projet de bonheur de Dieu pour nous, c'est de nous exaucer. Mais c'est également, plus particulièrement, de nous rencontrer. Verset 13 de notre texte du jour, « Vous me rechercherez et vous me trouverez. Car vous me rechercherez de tout votre cœur. Vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. » Rencontrer Dieu. Rencontrer Dieu, c'est adopter un nouveau mode de vie. On ne peut accepter le projet de Dieu tel qu'il est sans adopter un nouveau mode de vie. Il y a des choses qu'on ne peut plus vivre, qu'on ne peut plus choisir ou qu'on ne peut plus accomplir même. J'allais dire par exemple, et en disant ce juste par exemple, peut-être que l'attention de certains d'entre vous, je ne vous connais pas, y a-t-il peut-être parmi vous des personnes qui soient plus légalistes que d'autres ? Et dans ce cas-là, on attend une liste, n'est-ce pas, bien établie. Je ne crois pas que ce soit cela. Mais l'exemple que je peux vous donner, c'est quoi ? C'est que, si par hasard, nous sommes enclins à semer de mauvaises habitudes, comment allons-nous récolter un bon caractère? Si nous semons la jalousie et la haine, comment allons-nous récolter l'amour et l'amitié? Si nous semons la trahison, comment récolter la confiance? Si nous semons le mensonge, comment récolter la vérité? Toutes ces choses ne sont pas compatibles dans le projet de Dieu pour nous. Et souvenez-vous, quand les religieux du temps de Jean-Baptiste se sont approchés pour se faire baptiser, la réponse de Jean a été à la hauteur de leur hypocrisie. Verset 8 du chapitre 3 de Matthieu. race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez des fruits dignes de la repentance. Et n'imaginez pas, et comme diraient les jeunes maintenant, même pas en rêve, et n'imaginez pas pouvoir dire, nous avons Abraham pour père. Ouais. N'imaginons pas que le libellé de notre Église suffira pour nous sauver. La reine Victoria, au XIXe siècle, était connue pour sa foi authentique. Et un jour, elle rendit visite à une dame âgée dont la jeune nièce était également présente dans la salle. Et très simplement, la reine se mit à tricoter tout en conversant aimablement avec la vieille dame. After tea time, après le thé, n'est-ce pas, la reine proposa de lire ensemble quelques versets du chapitre 14 de l'évangile de Jean. Et s'adressant à la jeune fille, la souveraine lui demanda « Je me demande si vous êtes chrétienne. »«
Oh, certainement, » répondit-elle.
« À quoi reconnaissez-vous que vous l'êtes ?» reprit la reine. « Mais, Majesté, j'ai été baptisée et confirmée. » La reine n'ajouta rien, mais elle proposa de prier ensemble. Et elle pria en ces termes. Seigneur, ouvre les yeux de cette chère jeune fille. Montre-lui que sans un complet changement de son cœur, elle ne peut pas être une chrétienne. Que les pratiques extérieures ne peuvent rien pour la sauver. Je te demande cela au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Et plus tard, cette jeune fille, en racontant cet incident, ajouta « Oh, j'avais souvent chanté « God save the Queen »,« Dieu sauve la reine ». Mais je ne m'attendais pas à entendre la reine demander à Dieu de me sauver, moi. » Oui. Verset 29 du Deutéronome 4 nous dit « Tu cherches l'Éternel ton Dieu et tu le trouveras. Si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. » Lorsque notre cœur se tourne vers Dieu, c'est toute une vie qui change. Les rites, quels qu'ils soient, ne sont pas une garantie. Et Jérémie le dit déjà, bien avant, au chapitre 9, verset 25, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtirai tous les circoncis qui ne le sont pas du cœur. » Le projet de Dieu est bon et merveilleux uniquement pour ceux qui sont prêts à se laisser transformer par l'Esprit de Dieu. C'est une grâce que Dieu nous fait que de circoncire nos cœurs et nous purifier de nos péchés. Car le projet de Dieu pour nous consiste, oh, non seulement à nous exaucer, à nous rencontrer, mais également et surtout à nous pardonner. Verset 14 de notre texte, « Je me laisserai trouver par vous et je vous rétablirai. » Dans la situation, bien sûr, il rétablit ainsi la relation. Nous avons cette relation à nouveau rétablie parce que nous sommes pardonnés. Je me laisserai trouver par vous, nous dit Dieu par la bouche du prophète. Dans l'évangile de Matthieu, il y a une histoire que vous connaissez également, c'est celle du jeune homme riche. Matthieu 19, verset 16. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Demanda-t-il à Jésus. Oh, je suis persuadé que vous avez déjà entendu plein de prédications sur ces textes. Mais la vie éternelle, chers amis, elle est impossible aux hommes. Vous avez beau dire et beau faire, pour les hommes que nous sommes, c'est impossible. Nous ne pouvons pas produire le salut. Les conditions d'entrée sont tellement sévères qu'il nous est impossible de les satisfaire. Or, la réponse de Jésus, je trouve, dans cette histoire, elle est un peu gênante pour nous. Pourquoi ? Car Jésus répond, « Sois bon », il lui dit. Et puis par ailleurs, nous savons que Dieu seul est bon. Il n'y a pas de bon. Et Jésus, il dit au jeune homme, « Sois bon ». Ensuite, il lui dit, « Sois obéissant ». Ah ben ça, c'est bien. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, lesquels, etc. Matthieu 19, verset 17. Quel commandement doit-il observer? Et enfin, il lui dit, et c'est là un petit peu le pompon, sois parfait. Si tu veux être parfait, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Matthieu 19, verset 21. Alors, si on résume les propos de Jésus pour entrer dans le royaume de Dieu, et la vie éternelle, il faut être bon, juste et parfait. Frères et sœurs, le problème, c'est que, en tout cas moi, je ne sais pas vous, je ne suis ni bon, ni obéissant, et encore moins parfait. Et Jésus, en plus, il rajoute encore une couche. Si l'on prend le verset 25 de Marc 10, il est plus facile à un riche, à un chameau, pardon, de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Que pouvaient penser les disciples qui entendaient tout ça? Comment pouvaient-ils comprendre? D'ailleurs, ils arrivaient tellement plus à comprendre qu'on comprend bien qu'ils s'étonnaient davantage en se disant les uns les autres, nous disent les textes, en demandant « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Et Pierre dit à Jésus en Marc 10, 28, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » En d'autres mots, Seigneur, nous sommes dans l'impossibilité d'obéir à tous tes commandements. Ce n'est pas possible. Nous ne sommes par conséquent pas des modèles d'obéissance non plus. Qu'en sera-t-il de nous, nous qui t'avons suivi ? Dit Pierre en interpellant Jésus. Ce n'est pas tout de vouloir. Mais en avons-nous le pouvoir? En avons-nous le pouvoir? Alors, quels espoirs nous reste-t-il? Qui peut donc être sauvé? Aux hommes, cela est impossible. Alors, quels espoirs avons-nous face à l'impossibilité? Logiquement, aucun. Logiquement, aucun. L'impossible est par définition, c'est pas français, l'impossible est par définition impossible. La Bible nous présente le Dieu de l'impossible. Dieu, Jésus. Marc 10, verset 27, Jésus le regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Demandez à un paralytique de marcher. C'est impossible, hein? Mais Jésus l'a fait. Demandez à un aveugle de voir. C'est impossible. Jésus l'a fait. Demandez à un mort de revivre. C'est impossible. Jésus l'a fait. Demandez à une femme de donner la vie à un enfant en restant vierge, c'est impossible. Dieu l'a fait. Et demander à un pécheur d'être bon, obéissant et parfait, c'est impossible. Mais Jésus-Christ l'a fait. Et toutes ces conditions font que la vie éternelle nous est inaccessible. Si nos péchés nous disqualifient du salut, ce ne sont pas eux qui nous empêchent d'accéder au ciel, mais c'est le fait de refuser la grâce, le don, le cadeau gratuit que Dieu nous fait en Jésus-Christ. conclure, je finirai, une fois n'est pas coutume, par une légère anecdote. Frédéric le Grand fut abordé un jour par un pauvre homme qui voulait lui parler. « Ah, je n'ai pas le temps de t'écouter, lui dit le roi sans s'arrêter. Sire, je n'ai que deux mots à vous dire. »« Bon, répond le roi, mais deux mots, pas un de plus. »« Faim, froid, » s'écrie le malheureux à la place du petit discours qu'il avait préparé. « Pain, charbon, » fut la réponse tout aussi brève, et il lui fit remettre 100 pièces d'argent. Peut-on, à votre sens, résumer en deux mots l'état de misère dans lequel est plongée la race humaine? En deux mots. Ouais. Péché, mort. La réponse du roi des rois tient aussi en deux mots. Jésus, Christ. Acte 4, verset 12 nous dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Ouais. Le projet de Dieu pour nous, c'est de nous exaucer lorsque l'on invoque selon sa volonté. C'est de nous rencontrer et de demeurer en chacun de nous constamment. C'est de nous pardonner, et nous en avons tous besoin, afin de pouvoir vivre éternellement le bonheur de son salut en sa présence. Paul termine en Philippiens en disant au verset 9 du chapitre 2, « C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. » Alors, oui, peut-être est-il temps de répondre à la question « Que fais-tu du projet de Dieu, projet de bonheur et de paix pour toi, pour nous ?» Amen. Je vous propose quelques instants de réflexion. Notre Dieu, notre Père, merci parce que tu es encore celui qui, ce matin, sait ce dont nous avons pertinemment besoin. De ton présence, de ton pardon, afin de pouvoir vivre de toi. Faire nôtre toutes les promesses que tu nous donnes dans ta parole. Et elles sont à nous parce que tu nous les as données. Seigneur, c'est encore là une grâce que tu nous fais, que de bien vouloir nous accompagner dans nos difficultés quotidiennes. Que nous soyons jeunes ou vieux, tu es celui qui est le fidèle par définition. Tu es celui qui nous aime avant toute chose. Tu es celui qui a pour nous un projet de bonheur éternel auprès de toi. Et c'est ce que tu nous as d'ores et déjà accordé ici-bas. Donne-nous, Seigneur, de rentrer toujours plus dans ton projet, d'une manière qui t'honore et qui te glorifie. Que ton nom soit béni. Amen.